au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
Nous sommes de retour à Entre nous avec Gilda Roy, le gars qui chantait justement Une autre chambre d'hôtel.
Ouais.
Ça te mente pas? Ça te mente pas que chanter?
Mais je chante, tu sais, à chaque année, je fais quand même des spectacles en dehors de Montréal, mais ça me manque. J'aimerais ça faire une vraie tournée, là, tout aller partout. Là.
De remonter un groupe.
Des gros shows et des petits shows. Là, ouais, un band. Puis moi, j'aime ça. Et encore une fois, je suis bien paternel, moi, puis moi, je repasse les chemises de mes musiciens avant le show. Je suis pas capable de manger, moi. Les autres, ils vont manger.
Ah, oui.
Moi, je reste au théâtre, je deviens fou, puis là, je repasse les chemises.
T'es un sûr Michel Louvet. Michel Louvet fait ça pour ses vêtements, lui, mais toi, tu fais pour tout le monde.
Mais tu sais que moi, j'ai adopté la méthode Louvain. Quand mon pantalon est mis, je me rassois pas avant le show.
Ah ouais?
Ouais, j'ai appris ça de Michel Louvain, qui est un monsieur extraordinaire.
Ben, comme les grands du country, tu regardes des photos d'Hank Williams qui avait une vie complètement tout croche, mais il est impeccable.
Et voilà. Ça, c'était bien important. Il était long comme une bine, mais ça paraissait pas dans son linge.
Ah non, c'était ces gars-là, on appelle ça les outlaws, là.
Ouais.
Mais Hank Williams, c'est un vrai de vrai.
As-tu vu le film que Tom Hiddleston fait, non? Hank Williams? Ça s'appelle I Saw the Light. Je m'excuse, mesdames et messieurs, mais c'est vraiment bon. Allez voir ça, I Saw the Light, ça se trouve un petit peu partout. Là. C'est Tom Hiddleston, un Anglais ou un Australien, c'est un Anglais, je pense, qui joue Hank Williams, parce que lui, il trippait sur Hank Williams. C'est lui qui chante, en plus. C'est bien impressionnant.
Parce qu'Hank Williams, c'est pas rendu à 30 ans?
Non.
Il est mort à 27 ans,
quelqu'un qui ne sait pas qu'il est mort, je pense qu'il avait 29, mais c'est pas.
En tout cas, il s'est pas rendu à 30 ans.
Quelqu'un qui écoute ses disques fait ce monsieur-là, c'est un vieux monsieur, puis qui a eu une vie bien, bien dure. Mais non, c'est une rock star qui est mort avant 30 ans, d'une overdose. Comme les grandes rock stars. Moi, c'est mon top du top, c'est Hank Williams.
Mais le country est plein d'histoires comme ça.
Oui, c'est... Je te dirais que c'est plus rock and roll les vies de chanteurs et de chanteuses country que de chanteurs et chanteuses rock.
Mais c'est ça, on en vient aux racines même de l'Americana. Là. Mais tu penses à Hank Williams, tu penses à la vie de Waylon Jennings, de Willie Nelson.
Toute la gang, tu regardes le show des Highwaymen, puis un par un, Kris Kristofferson, Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, ils ont rendu plusieurs pocheux heureux. Eux
ça autres, fait une cellule vie, bien remplie en prison, ça.
Mais ça, t'as bien raison. Mais en même temps, ça donne ce que ça donne.
Ça donne. Pendant la pause, quand on était en train de placer la chanson une autre chambre d'hôtel, on parlait de Gaston Mandeville.
Ouais.
Gaston Mandeville, lui, malheureusement, il nous a quittés bientôt. Il avait 40 ans.
Ouais,
et ça fait 20 ans déjà. Ça fait 20 ans déjà. Le temps passe, hein?
Le temps passe, puis le temps passe, puis il y a des choses qui ne se remplacent pas. Tu comprends?
Ouais.
Fait que, moi, mon père est mort il y a 12 ans. Et j'ai réalisé l'an passé que ça m'a pris 11 ans à m'en remettre. J'ai écrit une chanson de Noël en joke pour un ami. Et j'ai réalisé que ça faisait... Ça faisait depuis que mon père était mort que j'avais rien écrit. Là, j'ai fait « Calique, j'ai-tu fait une dépression nerveuse de 11 ans? » Puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que je suis allé voir mon médecin, puis là, j'ai compté ça. Puis là, tu sais, ils ont des critères pour déterminer c'est quoi les dépressions, tout ça. Mais là, j'étais correct.
Mm-hmm.
Mais elle dit « Ben, d'après ce que tu me racontes, je pense que t'as fait une dépression qui a duré 7-8 ans, puis je m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais trop occupé. » Mais ça, puis je me disais, le temps va arranger les choses, je vais moins m'ennuyer, ça, puis Colin. Non, ça se remplace pas. Ce vide-là, ça reste un vide, puis c'est correct de même. C'est comme ça, la vie.
Est-ce que tu chantais pour faire plaisir à ton père? Puis
tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour faire plaisir à mon père.
Ah ouais?
Ouais.
À ce point-là?
Ah, à ce point-là. C'était pour l'impressionner. Moi, mon père, c'était un self-made man qui a lâché l'école, je sais pas en quelle année, en troisième année peut-être. À 12 ans, il travaillait d'une mine. À 16 ans, il était draveur. Tu sais, un genre d'histoire. Puis il s'est enrôlé dans l'armée quand il n'avait pas vraiment le droit de s'enrôler. Il était un petit peu trop jeune.
On écrit des romans là-dessus.
Exactement. Si tu étais un Américain, Tom Hanks aurait joué son rôle, genre. Là, ouais. Puis, puis là, il est sorti de l'armée, il est devenu police à Cadillac, en Abitibi, rencontré tout ça. Il a fini son secondaire par correspondance, puis c'est devenu le premier locataire à être élu au conseil municipal de Rigaud. Le locataire n'était jamais élu avant, c'est juste les propriétaires. Mm-hmm. Ça, il est plein qui était, tu sais. Ouais. C'était le premier, puis ça, il était bien fier de ça. Puis il s'est fait seul, puis moi, je voulais l'impressionner. Ouais.
Est-ce qu'il était impressionné? Ou ça y en prenait beaucoup pour être impressionné?
J'ai chanté au Spectrum avec mon père.
Ah oui?
Puis mon père est monté, c'était au Francofolie. Puis c'était plein. Puis il est monté sur stage, puis il est venu me dire dans l'oreille, « Là, je comprends pourquoi t'aimes ça. » Fin de la discussion, on n'a plus jamais reparlé. Parce que quand j'étais jeune, je faisais, tu veux vraiment être un entertainer, vraiment un acteur? Ouais, t'es sûr? Pourquoi t'es pas avocat? Il aurait aimé ça, je suis avocat. Puis cet soir-là, il m'a dit, je comprends pourquoi t'aimes ça. Il a chanté plusieurs fois avec moi, mais au Spectrum, tu te souviens comment c'était hot, le Spectrum, là? C'était ça, j'ai fait ça avec mon père.
Le Spectrum, souvent imité, jamais remplacé.
Oh, hein? Calique, non, loin de là. Loin de là.
Mais tu repartiras en tournée, tu sais. Une caravane.
Ouais.
Le principe, justement, de la caravane, là.
Exactement. Avec une caravane, avec une roulotte, là. Puis, tiens, on plante la tente ici, t'asseoir, puis on fait un show. Puis, wow, j'aime bien ça. J'aime comme, ça rencontrer le monde.
Comme Willie Nelson le faisait encore il y a quelques années, où il se promenait avec son...
Winnebago.
Son motorisé,
bon, ouais.
Bon, le mot ne venait pas. Je pensais juste à un camper, faut pas dire ça. Non. Mais son motorisé, et il arrêtait son motorisé. Généralement, il le stationnait à côté de la salle de spectacle. Et dans l'après-midi, avec sa femme, il sortait les chaises de jardin, puis le monde venait jaser avec Willie.
Un petit barbecue, puis let's go, puis ben, disons qu'il roulait.
Il roulait.
Willie, il préparait sa soirée, fait qu'il roulait. Il pré-roulait.
Oui, non, mais avec le côté délinquant que l'on aime bien.
Mais oui.
C'est-à-dire que lui, des impôts. Il paye pas ça au gouvernement, mais il dit « Je redistribue ça aux gens qui en ont besoin. Pas de problème. »
Puis, il devrait en avoir plus de même. Dans le fond, là, Caroline.
Willie Nelson s'était fait accuser de ne pas payer ses impôts. Il dit « Au contraire, il dit j'en donne plus que ce que le gouvernement m'en demande, mais il dit « Je le renvoie pas à eux autres, je le donne à ceux qui en ont besoin. »
Il était sincère, puis c'était vrai.
Oui, c'est ça. C'est qu'on est convaincu que Willie Nelson ne ment pas quand il dit ça.
Mais non, ça peut pas être un bandit puis un escroc.
Que dans ses rencontres de chaises de jardin en après-midi, là, il doit donner des sous à du monde qui en ont besoin.
C'est bien sûr. Hey, Willie, je suis mal pris. Ah, here, bon. Come on, friend. Here you are, brother. Take this. C'est sûr qu'il fait ça. C'est sûr.
L'esprit de famille, c'est important pour toi? L'esprit de groupe.
Oui. Oui. Moi, mon père vient. C'est un Ontarien, de naissance. Ouais. J'ai de la parenté qui vit encore en Ontario, mais qui a vécu en Ontario. Et j'ai eu, il y a longtemps, une de mes blondes, c'était une fille de Toronto. Puis on a bien des préjugés, tu sais, face à l'Ontario, puis on s'est fait répéter ça. Toronto, allez pas là, c'est plate, m'excuse, là, c'est pas plate, Toronto. Et j'ai appris, là, qu'au Québec, on se targue d'être bien accueillant, d'être bien chaleureux, puis d'être bien généreux. Mais allez passer un petit bout de temps en Ontario, vous allez comprendre c'est quoi l'esprit communautaire. Ce que les Anglo-Saxons ont beaucoup plus développé que nous autres, je pense. Tu sais qu'à Toronto, là, le nouveau musée d'histoire naturelle était, je pense, à moitié payé par du monde qui donnait 5$ parce qu'ils trouvent ça important, un musée.
Mm-hmm.
On n'est pas rendu là ici. Encore.
Non, ici, on fait des coupes pour les... on fait des coupes dans l'éducation, puis ouais. Après ça, on dit ouais. « Ouais, mais c'est parce qu'on veut vous remettre ça. » C'est pas préélectoral. Pas
moi, ma femme est arrivée au Québec, elle parlait pas un mot de français, mais dans ce temps-là, il y avait des coffees, il y avait toutes sortes de cours du gouvernement, puis t'étais obligé d'y suivre. Puis au bout de 6 mois, elle parlait français, puis elle écrivait le français, puis elle lisait le français. Et là, on capote parce que les immigrants apprennent pas le français. C'est une des premières choses que les gouvernements ont coupées, les cours de français aux immigrants. Il me semble que c'est la moindre des choses.
Ah oui, puis après ça, on s'étonne du taux d'échec.
Ben oui. Come on! Tu sais, les dictatures, là, c'est la première affaire qu'ils font. Ils coupent dans l'éducation. C'est historique, c'est dans tous les livres. Allez le lire, vous allez voir, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est ce que Trump fait aux États-Unis, puis c'est ce qu'on fait ici tranquillement, mais on s'en rend pas compte.
L'autre affaire, après, on a de la misère à avoir des journaux.
Oui, mais oui.
Ça, c'est l'étape numéro 2.
Mais c'est pas grave, parce qu'on a tout ça sur Internet. Oh. On en parlera dans 10 ans.
On peut en parler tout de suite.
C'est incroyable.
L'Internet, ces affaires-là. Ce qui circule, les fameuses fake news versus les vraies nouvelles, les vraies affaires.
Moi, j'étais un vieux schnock, là, comme toi. on a lu des livres, tu sais. Puis, c'est pas vrai que quelqu'un que tu connais pas va écrire un petit paragraphe sur le net, puis qui détient la vérité, puis tu vas y faire confiance sans savoir c'est quoi ses sources, puis d'où il vient, puis là, tu te fais dire, tu sais, les jeunes hommes surtout sont susceptibles à ça. Ouais, tu sais, c'est les Illuminati, là, ça a l'air que c'est Beyoncé puis Jay-Z, les boss.
Puis les chemtrails.
Quoi? Quoi? Beyoncé puis Jay-Z, c'est les boss d'une société secrète à l'échelle mondiale qui contrôlerait tous les gouvernements? Pense pas, moi. Je penserais pas, parce qu'elle est trop occupée à se peigner, puis à se maquiller, puis à designer ses costumes de scène, à d'autres choses à faire que de contrôler l'univers.
Ouais, mais d'habitude, on essaie de combler le vide en disant n'importe quoi.
Ben, c'est ça. C'est ça.
Mais c'est ça. Avec toutes les théories du complot qui circulent de Cenarace et Gildard.
On n'en viendra jamais à bout, man.
Mais est-ce qu'on vit dans le vide à ce point-là pour essayer de tout remplir? On a l'impression que tout le monde se promène avec une palette de briques.
Tu sais, Sylvain, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau. Ouais. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Fantasyland, un livre d'un auteur américain. Il dit non, les États-Unis là, ont été bâtis sur les principes de liberté totale, liberté de parole totale, liberté de religion totale. Donc, j'ai le droit de croire en n'importe quoi. Puis si j'y crois, ça doit être parce que c'est vrai. Ça a commencé de même. Fait que là, ce qu'on a là, c'est juste le résultat de 500 ans de « Hey, j'ai le droit de croire à ce que je veux, puis si j'y crois, c'est parce que c'est vrai. » C'est ça que ça donne. T'sais. Puis on est un petit peu infecté par ça ici maintenant.
Clairement. Tout ça pour en arriver à ça.
Ouais.
Dans la culture, les gens qui font leur vie dans la culture, comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, auteurs, bon, tout ça, il y a deux grandes souches, deux grandes racines. Les Européens et les Américains.
Mm-hmm.
On pourrait même dire les Nord-Américains.
Oui, absolument.
Toi, tu fais vraiment clairement partie du deuxième groupe.
Ah oui, absolument. Moi, je suis un acteur nord-américain.
Musicalement, c'est ça, au niveau de l'acting.
Tout à fait.
Le théâtre aussi. J'ai un souvenir très, 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 très précis d'une pièce en particulier. Glengarry Glen Ross. Il ne peut pas y avoir plus américain que ça comme pièce de théâtre.
Non, non. Ben non, des vendeurs de terrain.
Des vendeurs de terrain qui s'arrachent le cœur pour avoir peut-être l'espoir de toucher à la classe moyenne à un moment donné.
Pour avoir la liste. En fait, le drame, c'est qu'ils se sont fait voler la liste de prospects, de gens qui pourraient éventuellement...
De clients potentiels.
Cette liste-là, là, Google, elle la met up-to-date à tous les jours. C'est nos noms qu'il y a dessus. Puis ça, on trouve ça correct. Parce que Google, c'est bien fait. Puis ils sont corrects. Le film, t'es bon. mais cette liste-là, c'est ça que c'est devenu ça. Mais effectivement, c'est ça le nœud de l'affaire. C'est des prospects, des clients potentiels, ça n'a pas de prix.
Alors que leur liste de prospects, c'est ça, c'est l'équivalent du bottin téléphonique. Elle n'a pas de valeur, sauf qu'eux autres, ils misent leur vie sur quelque chose qui finalement a très peu de valeur.
Exactement.
Mais je veux revenir sur le théâtre.
Oui.
Cette pièce-là, c'était en 1989, je ne me trompe pas, en manufacture. Puis j'ai un souvenir bien précis de cette pièce-là. Tu tenais le rôle de Roma, celui qui est dans la gang et celui qui est frais, c'est bar, mettons.
Le jeune frais.
Lui, c'est OK. Bon, je ne l'ai pas dit.
Merci de l'avoir dit.
Bon, c'est ça. Mais je me rappelle aussi de ceux qui jouaient avec toi, Pierre Collin, Marc Gélina. Puis c'était, je pense, la création francophone de cette pièce-là.
Oui, on a Pierre Legris, qui était un des membres de la production. C'est Fernand Rainville, Pierre Legris et moi, les productions du Cowboy solitaire. On avait acheté les droits. Pierre avait traduit la pièce. Fernand l'avait montée, puis moi, je jouais dedans.
Qui a été reprise depuis le temps.
Bien sûr.
Le théâtre, est-ce que ça te manque?
Terriblement.
Parce que t'en as fait tellement. Des années 80...
Ouais, je n'ai fait trop à un moment donné. J'ai fait, écoute, Glengarry Glen Ross, un simple soldat, vole au-dessus d'un nid de coucou, Hosanna, puis je sais pas quoi d'autre, là. Mais tout un après l'autre, là, c'est extrêmement exigeant, et mentalement, et physiquement, et cibole, ça paye à peine le loyer. Fait qu'à un moment donné, tu fais, je suis brûlé, puis j'ai pas une cibole de scène, fait que moi, faut essayer d'autres choses pour un bout, puis là, ben, tout s'enchaîne. Mais... dans l'année qui vient de passer, j'ai fait des démarches auprès d'un metteur en scène que je connaissais très bien, puis qui va monter une pièce que j'ai toujours voulu jouer. Puis je dis, regarde, moi, je veux jouer ça. Il a fait, oui. Waouh, puis il était content, puis ça. Puis à un moment donné, il m'a dit, sais-tu quoi? Ça a été terrible, ça. Puis ça, j'ai jamais conté ça à personne, Sylvain. C'est la première fois que je dis ça.
Sentez-vous bien
même mes enfants savent même pas ça. Ouais. Je pense que c'est trop vieux pour le rôle. C'est un gars que j'aime, puis je sais qu'il m'aime, là, tu sais. Il avait raison. Fait que Je ne jouerai jamais ce rôle-là.
Est-ce que c'est une pièce de Tennessee Williams?
Non, peu importe. Non, c'est pas grave.
Non, j'ai pensé...
Je vais te dire à la fin de l'entrevue.
J'ai pensé à un tramway de mille désirs.
Non, mais ça, ce serait... Fait que là, je veux, là, ça m'a mis en... Ça m'a comme surstimulé, puis je veux en faire. Ouais, je m'ennuie de ça.
Parce que t'as tellement fait de théâtre dans une période, somme toute, assez compacte. Là. Ouais. C'est pas mal des années 80.
Ouais.
Effectivement, je peux pas croire que ça a pas été mis dans ta vie sur une tablette en disant non, je vais y revenir. Là.
Non.
Je peux pas y retourner, sauf qu'à un moment donné, comme tu disais, faut gagner sa vie, puis il y a le fameux flow qui part.
Oui, c'est ça. Puis pas de plan de carrière, comme on disait un petit peu plus tôt. Mm-hmm. Là, ça arrive comme ça arrive, mais j'ai bien hâte de refaire. Oui.
Ouais. Comme la musique.
Comme la musique.
Le théâtre.
Tu sais, je suis un an sans jouer, là. J'ai été déjà un an sans jouer, puis j'avais hâte de jouer. Puis là, quand je suis un an sans chanter, j'ai hâte de chanter. Je suis comme. Tu sais. Un acteur, là,
ouais.
un entertainer, j'aime pas ce mouvement, en tout cas, disons ça. On a un point commun, tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui l'admet. Moi, je suis convaincu de ça, puis je suis prêt à défendre ça n'importe où, n'importe quand. On a comme un trou, nous autres. Puis la raison pourquoi on fait ce job-là, c'est qu'on essaie de remplir le trou. Puis il ne se remplit jamais. Puis le mien, il est particulièrement profond.
Ouais.
Fait que j'ai besoin de bien des affaires pour remplir mon trou. Puis moi, j'ai été un enfant aimé. J'ai eu une jeunesse fantastique. C'est rien de ça, mais nous autres, on est comme un besoin d'amour insatiable. Puis ça, c'est commun à pas mal tous les acteurs, puis même les chanteurs, je te dirais.
Mais c'est drôle, tu racontes ça, puis ça m'explique pourquoi tu aimes autant le sport. Parce que le sport, c'est une chose qui se régénère jour après jour.
C'est le plus grand drame.
C'est
plein de tous les games.
J'allais dire ça, c'est plein de belles choses, puis en même temps, l'horreur la plus évidente.
C'est d'une seconde à l'autre,
elle habite
dans la niche
du sport.
C'est un potentiel shakespearien constant, le sport. Peu importe le sport, d'ailleurs. C'est ce qui fait que ça nous fascine tant. C'est pas vrai qu'on aime ça, que c'est le fait que le Canadien dégage la rondelle dans le fond de la zone adverse et va la récupérer. C'est pas ça qui nous fait triper. C'est peut-être qu'ils vont scorer en supplémentaire puis qu'ils vont gagner la coupe quand personne pensait qu'ils la gagneraient. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas du dump and chase.
Mais quand on a appris que c'était Gildard qui allait faire le sport le midi ici, Gildard, il aime le baseball, la République, ces affaires-là. Ouais. Sauf que c'est pas le bulletin sportif.
Ah, pas du tout.
Ça s'appelle Sport et Société, puis c'est pas pour rien.
C'est parce que le sport est un reflet, puis est maintenant un symptôme de notre société. Puis moi, je connais pas ça. Je connais ça un peu. Mais c'est ce qu'il y a autour qui me fascine, puis qui m'intéresse. Puis j'ai eu le privilège, on m'a donné la chance de faire ça. J'aime bien ça. Puis de toute façon, moi, je m'informe de ça de toute façon.
Ouais.
Fait que quelqu'un veut vraiment me payer pour que j'en parle pendant 5 minutes? Ben, pourquoi pas? Non, mais on va dire ça comme ça. Là.
Un coup mal pris, je peux vous accommoder.
Ça.
Mais récemment, avec Bernard Drainville, Gildard, je l'entendais parler des entraîneurs qui peuvent commettre des abus de pouvoir, ces affaires-là.
Ouais.
Et je te sentais très sensible à cette question-là.
Ouais.
Mais toi, t'as des enfants?
Oui.
Puis ça fait du sport chez vous?
Les trois ont fait du sport. Ma fille, moins maintenant.
Ouais.
Puis mon plus vieux, moins, parce qu'il est sur le marché du travail. Mais oui, j'en ai un qui en fait encore. Puis c'était pas nécessairement de lui que
je pensais. Non, mais ça venait allumer une sensibilité chez toi.
Oui, ben c'est parce que tu vois...
Sensibilité de père, là.
À force d'aller voir jouer au soccer, puis au hockey, puis au football, puis à ci, puis à ça, t'en vois des affaires, là, puis t'en vois des coachs qui capotent, puis... T'sais, le système de hockey québécois, entre autres, qu'on remet en question, mais jamais vraiment sérieusement. Voir des petits gars de 10-12 ans en complet cravate, avec le manteau uniforme de l'équipe, un mardi à 5 heures après l'école à l'aréna de Rigaud parce qu'ils ont une pratique, c'est pas normal. Parce qu'ils joueront. Il n'y a aucun de ces petits gars-là qui va jouer dans la Ligue nationale. Là. C'est du Pee-wee 2B. Moi, là, j'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue nationale quand j'étais petit gars. Pas parce que moi, j'étais bon, parce que dans notre association, j'ai joué avec Mark Hardy, entre autres. Ça s'appelait, à ce temps, c'est Lake Shore, dans ce temps-là, ça s'appelait Westlake. Ouais. Je jouais au hockey avec lui. Puis lui, là, on était Pee-wee, puis on savait qu'il jouerait dans la Ligue nationale. Puis il a joué dans la Ligue nationale. C'est comme ça. C'est évident à ce point-là. Fait qu'arrêtez de capoter puis de faire patiner votre petit gars 12 mois par année. Faites jouer à d'autres sports l'été, si bol, s'il vous plaît. Il jouera pas dans la Ligue nationale. Parce que savez-vous quoi? S'il était pour jouer dans la Ligue nationale, vous le sauriez déjà.
Il y a une autre chose qui a beaucoup changé dans le sport chez les plus jeunes, c'est que souvent, les coûts reliés à ça sont tellement élevés que c'est rendu des activités de bourgeois, alors qu'avant, le sport, c'était une manière pour les moins nantis de pouvoir s'en sortir.
Absolument. C'était pas un sport de riche jouer au hockey quand j'étais petit gars, moi.
Les Marcel Bonnet, aujourd'hui, il n'y en a plus.
Ben non. Yvon Lambert n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Il a commencé à patiner à 16 ans.
Steve Bégin aurait été le dernier à passer cette limite-là, de partir d'un milieu compliqué.
C'est triste, là, quand tu sais, le monde, ils prennent une deuxième hypothèque pour que le gars aille jouer Bantam 2C. Oui,
mais c'est parce qu'il y a l'équipement des tournois. Là,
puis les tournois, les jours de semaine, puis les gars manquent de l'école pour aller au. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a personne qui devrait accepter ça. Je suis pour les tournois, je suis pour que les petits gars se dépassent puis qu'ils affrontent les meilleurs. C'est pas ça la question. Mais pas le mercredi soir, man, ni le jeudi. Ça commence le vendredi soir, les tournois, puis ça finit le dimanche soir. Puis si tu veux éviter ça, fallait une longue fin de semaine, puis t'auras le lundi aussi. Mais pas le jeudi soir, non.
Est-ce qu'on devrait ramener toute la structure sportive des plus jeunes dans les écoles?
Absolument. Moi, je pense que le
refaire des milieux de vie.
Il y en a un exemple où ça marche chez les États-Unis. Là. Le sport, c'est scolaire. Puis le vendredi soir, c'est le football ou le baseball là, à d'autres périodes de l'année. Puis c'est les écoles.
Puis même plus jeune, les équipes d'école.
Ben oui.
Quand le cancre en mathématiques va faire gagner sa gang au hockey, puis il va lui aussi avoir sa part de bonheur.
Il décrochera pas de l'école. On le sait, c'est prouvé. Les gars, surtout les gars ont besoin de bouger puis de faire. Puis les gars, ils font du sport, ben ils décrochent moins à l'école. C'est pas moi qui invente ça, là. Puis tu sais quoi? Ça serait des projets structurants pour toutes les municipalités au Québec. Parce que là, le gouvernement dit, regardez, conseil de ville, école, vous allez vous asseoir ensemble, présentez-nous le projet de l'aréna, puis le terrain de football, soccer, whatever, de baseball, là. Puis on va être partner avec nous autres, puis on va mettre l'argent, puis vous allez construire. Ça va faire travailler des contracteurs de la place, puis les parents vont savoir que les enfants s'en vont à l'école, puis à 4 heures, ben ils prennent pas l'autobus tout de suite parce qu'ils ont leur pratique de ci, de ça, puis ça se passe à l'école. T'as une place à surveiller. Il me semble que c'est tellement simple, puis tellement clair. Probablement trop.
Non, c'est parce que le plan expliqué comme ça, effectivement.
C'est ça que c'est.
Il est très simple.
Il n'y a personne qui va faire de l'argent avec ça.
On a tendance à compliquer les affaires. Et celui qui n'a aucun talent pour les sports peut devenir journaliste pour le journal de l'école
Exactement.
Et couvrir le match.
Il fait les entrevues. Ça se fait partout dans le monde, sauf ici. Come on. On n'est pas plus épais que les autres, c'est bol, me semble.
Non. Mais c'est décevant, pareil, de voir que ça. Il me semble que ça peut. Être simple comme ça.
Combien de fois t'as entendu David Letterman dire qu'il travaillait à Radio Étudiante puis il décrivait les matchs de basketball de son école? Il y en a plein de monde dans le showbiz qui ont commencé comme ça. Des journalistes sportifs aux États-Unis, ils ont commencé comme ça. Commencé à l'école secondaire, j'interviewais les gars, je faisais les comptes rendus à Radio Étudiante. Poup, ils sont rendus à ESPN. Quoi qu'on n'a pas ça, nous autres, comme école. C'est la meilleure école qui soit, là, tu sais. En tout cas. Mon Dieu, hey, on est rendu loin, Sylvain.
On est rendu là.
Ben oui.
Gildard, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Est-ce que t'as.
Moi, il y a une affaire que j'ai jamais faite.
T'as tellement pas la vue.
Il faut que je le fasse, là. Moi, je veux écrire un roman.
Ah,
écrire un roman. Je sais pas. Ben oui. Je sais c'est quoi l'histoire, en plus, mais il faut que je fasse ça. C'est la seule affaire que j'ai pas faite dans
effectivement,
le business. Là.
Quand on regarde ton 8 pages de Wikipédia, il n'y a rien sur le thème
moi, quand
roman.
Quand je vais partir, là, je peux laisser une tablette à mes enfants. Là. Il y a des pièces de théâtre publiées, c'est moi qui ai créé, je suis dedans, ça c'est vrai. Il y a des disques, ça c'est correct. Il y a des films, c'est correct. Mais c'est qu'il y a un livre que j'ai écrit.
Un livre.
Oui, il manque ça. Ils vont trouver ça weird, un livre, mais c'est important.
J'ai l'impression que ça se passera en Amérique en quelque part.
Il va y avoir des canaux, en tout cas, ça c'est sûr. Des canaux et de l'écorce.
Ah oui?
Ah oui. Hey, moi, mon gars, là, écoute bien ça. Une autre affaire, je me dis, puis ça. J'ai un enfant qui s'en va étudier aux États-Unis au mois de janvier, dans quelques jours. Il s'en va à l'Université du Wyoming, à Fort Laramie. Ça, okay. C'est la ville où il y a l'université. La capitale, c'est Casper, mais ça, c'est Fort Laramie. C'est à une heure de Cheyenne. Tous des noms qu'on entendait quand on était petit dans les films de cowboy.
Le dernier des Mohicans.
Mais Fort Laramie, là, ça a été fondé par un Canadien français, un coureur des bois, Jacques Laramie.
Ouais.
Ouais. On devrait tous savoir ça au Québec. Mais on le sait pas.
Et on le sait pas.
Ça, je suis tanné de ça, qu'on sache pas ça.
Mais là, on vient de l'apprendre.
Puis lui, il est bien content parce que je dis, quand tu rencontreras une jolie cheerleader, il va dire, ben, what are you French boy doing here? Il va dire, well, I come back to my sources, Jacques Laramie is the lover boy. Puis là, ils vont capoter.
Hey, merci pour le retour aux sources, Mille d'Orwell.
C'était fantastique.
Un gros, gros merci. Puis tu sais, je vais te laisser sur une note musicale.
Avec plaisir. Merci.
Qui est justement dans l'air du temps. Il y a tant à faire. Daniel Bélanger.
Trop d'affaires à faire. Merci beaucoup.
Il y a tant à faire. Merci beaucoup, Mille d'Orwell.
Puis je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers.